Jean chapitre 8, versets 39 et 40. Ils lui répondirent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu, Abraham n'a point fait cela. » Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous propose une autre méditation, toujours en lien avec le père de la foi, Abraham, le patriarche. Nous avons vu dans notre méditation précédente, le sabbat dernier, l'expérience intense qu'a faite Abraham lorsqu'il a été appelé à sacrifier celui en qui toutes ses espérances étaient concentrées. Il a été appelé pour atteindre le plus haut niveau de foi, afin qu'il puisse être le père de la foi, le père des fidèles, à savoir ceux qui ont la foi. Et aujourd'hui, toujours en rapport avec ces choses que nous avons contemplées à travers les semaines passées, qui sont très liées au sujet de la foi, certaines fois plus en rapport avec la loi, certaines fois plus en rapport avec notre intime communion avec Dieu, mais toutes ces choses se relient les unes les autres à un certain moment donné dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, une des choses sur lesquelles la parole de Dieu abonde en description et en explication et en définition, une des choses que j'aimerais que l'on puisse voir aujourd'hui, c'est ce que cela veut dire d'appartenir à la postérité d'Abraham, ou quelle est cette postérité d'Abraham. Et la raison pour laquelle j'ai envie de partager cela avec vous, frères et sœurs, c'est parce que aujourd'hui, il existe une confusion intense et profondément enracinée dans l'esprit des croyants, de ceux qui font profession de foi au Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de la nature et l'identité du peuple de Dieu. Et tout particulièrement, vis-à-vis de notre étude aujourd'hui, quant à la nature de la postérité d'Abraham, la nature d'Israël. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je ne vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui, il existe une idée très répandue dans le monde chrétien, à travers de nombreuses confessions religieuses, une idée qui veut que Dieu réserve à la nation d'Israël, la nation physique d'Israël, qui existe aujourd'hui en Palestine, l'idée veut que Dieu réserve à cette nation d'Israël une place unique dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. L'idée veut que lorsque Jésus reviendra, il établira son royaume à Jérusalem, physiquement, pendant 1000 ans, et que les descendants naturels d'Abraham, ou l'Israël physique, la nation d'Israël, les Juifs, y occuperont une place toute particulière dans ce règne des 1000 ans. C'est ce que l'idée enseigne, c'est ce qu'elle veut. Et cette idée veut aussi que la loi de Dieu, les 10 commandements, est réservé au peuple juif, mais que les gentils convertis au Seigneur Jésus-Christ ne sont, eux, pas tenus de garder la loi morale. Ils sont sous la grâce et non sous la loi. Et donc ces termes bibliques sont utilisés pour enseigner que ceux qui ne sont pas de la descendance physique d'Abraham et qui viennent par la conversion et la repentance au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, ces personnes-là nous dit-on, ne sont pas tenus de garder la loi des 10 commandements. Tout ça fait partie de cette idée, c'est un tout qui représente, ce sont tous les aspects de cette idée qui est maintenue et crue et enseignée dans de nombreux cercles chrétiens aujourd'hui. De nombreux cercles chrétiens. C'est une idée très répandue. Mais aujourd'hui, ce que je me propose de faire, et ce que je vous propose que nous fassions, c'est que nous examinions la parole de Dieu, qui devrait être la première et la dernière autorité dans notre recherche de la vérité, que nous examinions cette parole pour savoir ce qu'il en est. Parce que des idées, nous pouvons en avoir, des théories, nous pouvons en former, mais une vérité, il n'y en a qu'une. Et c'est celle qui nous est présentée dans la parole du Seigneur. Pour cela, pour commencer, je vous invite à vous tourner vers le passage de Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, nous avons le premier récit, les premières paroles nous décrivant la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est d'ailleurs, je m'avance un peu, mais je vais quand même expliquer, au cas où nous n'avons pas cerné les tenants et aboutissants de cette idée que je viens de mentionner précédemment, c'est sur cette promesse que les Juifs forment toute leur conviction, toute leur tradition vis-à-vis de leur identité en tant que nation et peuple d'Israël à qui appartient la terre de Palestine. Tout le système de croyances et de traditions et de convictions liées à ce sens d'appartenance à un peuple précis des Juifs et d'Israël est basé, fondé sur cette première promesse faite à Abraham. Et donc j'aimerais que nous la lisions avec une grande attention pour pouvoir venir au Seigneur, non pas chargé de nos conceptions préalables, mais remettant tous nos fardeaux à Jésus-Christ et écoutant la parole de Dieu comme étant prêt à être enseigné. Parce que si nous venons à Dieu en voulant enseigner à Dieu ce que nous croyons, eh bien Dieu ne peut plus nous former, ne peut plus nous modeler, ne peut plus nous façonner, ne peut plus nous édifier, ne peut plus nous sanctifier. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et donc je dois venir à Dieu, à sa parole, comme étant prêt à être sanctifié. Je ne viens pas à Dieu pour le sanctifier, il vient pour me purifier et pour m'apprendre ce qu'est la vérité. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, tout d'abord, nous lisons. Et l'Éternel avait dit à Abraham, qui était le premier nom avant qu'il soit appelé Abraham, et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est chargé de sens. Et donc vous pouvez comprendre que si nous comprenons mal ce qui est signifié ici, nous pouvons utiliser à notre profit une promesse de Dieu qui est destinée à autre chose. Il a dit à Abraham, « Je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Je te ferai devenir une grande nation. Tu seras une grande nation. » Et versets 6 et 7, nous lisons. « Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Or les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ce pays, le pays de Canaan, ou que nous l'appelons aujourd'hui la Palestine, ce pays, je te le donnerai, je donnerai ce pays à ta postérité. À ta postérité. Donc il a dit à Abraham, je te ferai devenir une grande nation, ou en d'autres termes, je te donnerai une postérité. Et ensuite, il a dit, en montrant Canaan, parlant à Abraham, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Tu vas devenir une grande nation, et cette grande nation, cette terre lui est réservée. Vous comprenez? Tout est fondé sur cela. Dieu a promis à Abraham la terre de Canaan et une postérité qui habiterait cette terre. Vous noterez que Dieu n'a pas précisé en quel état serait cette terre qu'il promettait à Abraham. Entre parenthèses, Hébreux chapitre 11 nous le dit. Mais je n'irai pas maintenant. Dans Galates chapitre 3, verset 15, vous voyez que le sujet que j'aborde aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un sujet qui est si large, si profond, qui possède de si nombreuses ramifications que je ne me propose pas de présenter tout ce qui le concerne. Mais je nous propose de nous attarder précisément sur ces choses qui sont essentielles pour que nous obtenions une compréhension juste et correcte du sens des paroles de Dieu en lisant la parole de Dieu de manière extensive et compréhensive. Et pour cela, j'attire votre attention vers les paroles de Galates chapitre 3, versets 15 à 18. Galates chapitre 3, verset 15 à 18. Écoutez bien maintenant. Écoutez bien. Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a promis qu'il deviendrait une grande nation. Que toute la terre serait, toutes les familles de la terre seraient bénies en lui, en sa postérité. Et ensuite, il a promis à cette postérité, à lui et à cette postérité, la terre de Canaan. Et maintenant, vous lisez Galates chapitre 3, verset 15. Frère, il a fait une promesse. Frère, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. À Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est Christ. Ne serait-ce que là, frères et sœurs, si je m'arrêtais là, déjà, on a une réponse qui est suffisante pour illuminer nos esprits. Illuminer nos esprits et dissiper nos ténèbres quant à, vis-à-vis de la mauvaise compréhension de la nature du peuple de Dieu qui a pénétré et contaminé l'esprit de tant de chrétiens en ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est? Il n'est pas dit, nous lisons la parole de Dieu ici. Ce n'est pas Victor Biérot qui donne son opinion, donc vous écoutez, il est écrit, il n'est pas dit, dit l'apôtre, sous l'esprit d'inspiration, il n'est pas dit et à ses postérités, pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule et à ta postérité, qui est Christ. Quoi? Et à ta postérité? De quoi parle-t-il? Il parle ici de la promesse qui a été faite à Abraham, parce que je le lis au verset 16, c'est le début. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Quelle promesse? Au chapitre 12, vous le lisez, la première promesse. Ensuite, la promesse a été réitérée. Je crois que c'est, allons-y brièvement, pour que je ne fasse pas d'erreur. chapitre 12, vous avez la première fois. Ensuite, au chapitre 13, vous avez la deuxième fois, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, encore une fois, au verset 14, où il lui dit « Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » C'est à cela que l'apôtre Paul fait référence, et il dit, je le relis, « Il n'est pas dit « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs descendances, plusieurs générations. Ce n'est pas cela qui est dit. Nous ajoute le serviteur du Seigneur, l'apôtre Paul. Ce n'est pas cela qui est dit. Mais comme d'une seule et à ta postérité, qui est Christ. Donc les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, mais sa postérité, c'est Christ. C'est à cette postérité qu'ont été faites les promesses. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et sa postérité, c'est Christ. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, c'est un début. Je continue, verset 17. Voici donc ce que je dis. Quant au contrat que Dieu a auparavant confirmé en Christ, la loi, qui n'est venue que 430 ans après, n'a pu l'annuler pour abolir la promesse. Car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. Or Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. Donc je souligne ici que l'héritage n'était pas par la loi, l'héritage promis n'était pas par la loi, mais par la promesse. Et l'héritage n'était pas par la descendance selon la chair, mais par la promesse. Je le relis, car, verset 18, « Car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus de la promesse. » Ou autrement dit, si l'héritage vient de ceux qui gardent la loi, de la descendance d'Abraham, selon la chair, ceux à qui la loi a été livrée à travers l'intermédiaire de Moïse, ce n'est plus de la promesse. Mais Dieu l'a donné gratuitement à Abraham par la promesse. Et donc maintenant, j'aimerais susciter votre réflexion, notre réflexion, pour pouvoir briser quelques chaînes et casser la glace de notre froideur et de notre indifférence à la sainte parole du Seigneur. Je pose la question. Si donc l'héritage ne vient pas par la loi, comme c'est écrit, comme nous venons de le dire, si l'héritage promis à Abraham ne vient pas par la loi, mais par la promesse, ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham selon la chair, peuvent-ils être bénéficiaires de cette promesse et de cet héritage par la promesse? Le peuvent-ils? Ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham selon la chair, peuvent-ils être bénéficiaires de cette promesse si l'héritage ne vient pas par la loi? Vous comprenez? Il faut réfléchir à ces choses pour pouvoir les comprendre, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas simplement recevoir la parole d'une personne et la croire et ensuite relever les passages que vous avez entendus être cités et les refournir comme une justification de cette croyance que vous maintenez et qui est la vôtre, sans pour autant avoir fait une réelle étude approfondie et intentionnelle de ce sujet-là que vous croyez comprendre. Et là, je parle pour tous, frères et sœurs, que vous soyez adventistes, baptistes, pentecôtistes, quelle que soit votre confession. Que nous soyons adventistes, frères et sœurs, Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous puissions présenter la vérité issue de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons faire cela que si nous avons nous-mêmes fait l'étude pour pouvoir comprendre, illuminé par l'Esprit de Dieu qui vient nous aider à comprendre la parole de Dieu, que si nous avons fait cette étude pour pouvoir avoir une compréhension réelle et vivante du sujet. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne vers Romains chapitre 4. Nous avons vu que l'héritage ne vient pas de la loi, ne vient pas de la descendance selon la chair, mais est par la promesse. Et que la postérité à laquelle Dieu a promis la terre, qu'il promettait à Abraham et à sa postérité, ce n'est pas plusieurs postérités, mais c'est Christ. Et vous allez me dire, mais Christ, c'est la postérité, c'est tout. C'est pour ça que nous avons besoin de continuer à lire, de ne pas fournir notre propre interprétation des paroles de Dieu, mais de chercher les paroles de Dieu qui complètent ces paroles de lui que nous n'avons pas réussi à comprendre quand elles étaient seules et isolées. Dans Romains chapitre 4, verset 13, vous lisez en effet, écoutez bien maintenant, frères et sœurs, l'apôtre Paul encore sous l'esprit d'inspiration parce que nous croyons aux Écritures. Donc, ce que nous lisons ici, ce sont bien les paroles de Dieu. Et donc, quel est le poids qui est contenu dans ces paroles? C'est ce que j'aimerais susciter en notre esprit, la question que j'aimerais élever dans notre réflexion. Romains chapitre 4, verset 13, il est écrit. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Et là, ici, nous avons une explication biblique de ce qui est signifié par le fait que l'héritage ne vient pas par la loi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous le lisez ici, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Autrement dit, la postérité qui est selon la lignée et la descendance naturelle, par l'ordre naturel des choses, par la loi. La promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham à cette postérité-là. Mais à quoi? À qui? À sa postérité par la justice de la foi. Verset 14. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. Car la loi, verset 15, car la loi produit la colère, en effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Qu'est-ce que cela fait, frères et sœurs? Si nous disons que la promesse de l'héritage de la terre de Canaan est réservée aux enfants naturels d'Abraham, que faisons-nous lorsque nous disons cela? Lorsque nous disons que cet héritage que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité est réservé aux enfants naturels physiques d'Abraham. Lorsque nous lisons verset 14, lorsque nous faisons cela, nous anéantissons la foi et nous abolissons la promesse. Quoi? Si je m'accroche à cette nation d'Israël, que j'y mets mes espérances d'un royaume d'un millénium, un royaume de 1000 ans, c'est le millénium, sur la terre, qu'est-ce que je fais? Si je dis que Dieu a promis l'héritage aux enfants naturels d'Abraham, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire que l'héritage a été fait à Abraham et à sa postérité par la loi. C'est cela. Par la loi. Ils sont descendants. L'héritage leur est réservé. Ce sont les descendants. C'est Israël. C'est eux. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'anéantir la foi. Nous abolissons la promesse de Dieu. Nous abolissons la promesse. Si nous n'avons pas la promesse de Dieu, que nous reste-t-il? Précisément cela, la condamnation de la loi. Or, nous sommes chrétiens et nous croyons en Jésus-Christ et nous disons que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais sous la grâce. Mais par contre, nous enseignons quelque chose qui nous remet sous la condamnation de la loi, parce que nous croyons qu'il existe encore une distinction. Versets 15 et 17. Je continue. Oui, nous avons lu, « Car la loi produit la colère. En effet, où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. » Ça me rappelle un passage qui est écrit dans 1 Jean qui nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. C'est un élément important qu'il faut garder à l'esprit. Mais verset 16, nous poursuivons. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi pour être père de plusieurs nations et notre père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. » Qu'est-il écrit au verset 17? Qu'est-il écrit? Est-ce qu'il est écrit un père d'une nation à qui les promesses sont exclusivement réservées? Est-ce cela qui est écrit? Je le relis. Selon qu'il est écrit, verset 17 de Romains chapitre 4, nous y sommes encore. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi, disait Dieu, à Abraham, pour être père de plusieurs nations. » Plusieurs nations. Ce n'était pas juste les Juifs. Donc, selon la promesse même d'Abraham, qui est celle qui est citée dans Genèse chapitre 17, verset 5, selon cette promesse même que Dieu a faite à Abraham, Abraham était appelé à être un père de plusieurs nations. Donc cela voulait dire simplement et clairement, sans ambiguïté, qu'Israël serait composé non pas simplement des Juifs, mais de toutes les nations, de toutes les nations qui se placeraient sous la protection qui se placerait sous, le parapluie, pour ainsi dire, de la justice par la foi. De tous ceux qui appartiendraient à la postérité d'Abraham, non pas par la loi, mais par la justice de la foi. C'est pour cela qu'il était dit qu'il serait père de plusieurs nations. Père de plusieurs nations. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Réfléchissez-y. Réfléchissez au fait que Dieu ne fait pas acception de personne. N'est-ce pas merveilleux? Mais même si nous avons ces merveilleuses promesses, nous avons aujourd'hui une croyance selon laquelle Dieu fait acception de personne. Et Dieu fait une distinction, et Dieu préserve une distinction, et Dieu en Christ aurait préservé une distinction, faisant des Juifs un peuple élu, privilégié, non pas cela, mais ayant des devoirs qui ne reposent pas sur les gentils convertis à Dieu par les mérites et le sang de Jésus-Christ. C'est ce qui est enseigné, c'est ce que on croit, certaines personnes croient, mais nous ne voyons pas cela. Et donc je vous posais la question, Dieu a-t-il maintenu un mur de séparation entre juifs et gentils, par lequel une distinction de privilèges et de devoirs est faite entre ces deux groupes? Dieu a-t-il préservé un mur de séparation? Dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 17, vous le voyez. Je lis. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnances, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix, et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps, et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Versets 21 à 22. Et en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Est-ce que vous voyez ici une distinction? Y a-t-il ici un mur de séparation qui a été préservé? Verset 14, vous le lisez. Car c'est lui qui est notre paix, Christ, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur de séparation. Frères et sœurs, j'aimerais pouvoir vous donner le sens de l'importance de ce sujet que je vous présente aujourd'hui. Est-ce superficiel? Est-ce d'une importance occasionnelle ou est-ce fondamental? Y a-t-il, ma question est la suivante, y a-t-il deux peuples ou un seul? La réponse que vous fournirez à cette question est-elle aussi fondamentale, frères et sœurs, parce qu'elle définira si votre compréhension de la parole de Dieu est confuse ou si elle est claire. Si vous me dites qu'il y a deux peuples, elle est confuse. Et tout ce que vous lirez dans la parole de Dieu sera influencé, toute votre compréhension de ce que vous lirez dans la parole de Dieu sera influencée par la compréhension que vous avez de ce sujet-là. Parce que si nous croyons comprendre que Dieu fait encore une distinction entre l'Israël selon la chair et l'Israël qui est par la justice de la foi, nous allons tout mal comprendre dans la parole de Dieu. C'est aussi sérieux que cela. Et vous voyez pourquoi j'ai dit précédemment que ce sujet que je vous présente aujourd'hui, il est d'une grande importance, quelle que soit notre confession. Que vous, même si nous sommes adventistes, frères et sœurs, je connais des adventistes, et j'en connais par milliers, qui ne comprennent pas bien ce sujet-là. Il est écrit, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a deux peuples ou un, il est écrit, il n'en a fait qu'un. Des deux peuples, il n'en a fait qu'un en abattant le mur de séparation. Frères et sœurs, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il a préservé le mur de séparation ou est-ce qu'il l'a abattu? Si vous lisez clairement les mots français, qui sont d'ailleurs les mêmes en anglais, comme en portugais, comme en espagnol. Parce que la Bible reste la même. La parole de Dieu ne change pas. Allez-vous ou avez-vous érigé le mur de séparation que Dieu a abattu? Maintenant, j'aimerais vous parler d'un paradoxe mystérieux. Et j'appelle cela le paradoxe mystérieux de la chair. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Selon la Bible, que révèle un désir? Il y a deux volets ici. Que révèle un désir de s'élever comme un peuple privilégié et choisi de Dieu? Qu'est-ce que cela révèle comme désir lorsque nous faisons cela? Ou que révèle un désir d'élever un peuple qui n'est pas nous, mais d'élever un peuple comme privilégié et tout spécialement aimé de Dieu en dépit de toutes les preuves scripturales du contraire. Qu'est-ce que cela révèle? Scripturalement, bibliquement, qu'est-ce que cela révèle? Quelle est la connotation biblique de ce genre de croyance? Ce que j'ai envie de faire, frères et sœurs, c'est vous montrer l'esprit sous-jacent de cette croyance, de cette idée, de cette théorie selon laquelle l'Israël de Dieu est la postérité physique d'Abraham et que ce peuple-là, la nation d'Israël, est privilégié maintenant et sera privilégié plus tard, notamment pendant ce que certains appellent le millénium. Je le lis ici dans Galates chapitre 6, verset 11. Galates chapitre 6, verset 11. Et ici, dans toute cette épître aux Galates, l'apôtre Paul a en effet écrit de nombreuses choses et donc il dit « Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrite de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Pourquoi ? Uniquement afin de n'être pas persécuté pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes ne gardent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans la chair. » C'est très intéressant parce qu'ici, dans la Bible King James, il est écrit « afin de se glorifier dans votre chair. » Donc, vous comprenez maintenant peut-être mieux ma question. Que révèle ce désir de s'élever soi-même comme un peuple privilégié et choisi de Dieu ou d'élever un peuple qui n'est pas nous mais que nous regardons comme choisi de Dieu et privilégié et tout spécialement aimé de Dieu? Qu'est-ce que cela révèle? Je veux que vous écoutiez la parole de Dieu pour que ce ne soit pas moi qui impose la conclusion. Écoutez-le. Car les circoncis eux-mêmes ne gardent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans votre chair. Pourquoi? Pourquoi voulons-nous élever la circoncision, que ce soit pour nous, étant juifs, ou pour eux, étant juifs? Parce que la seule distinction qui les distingue, c'est la circoncision, selon la chair. Parce que ils ne vont pas vous intéresser s'ils ne sont pas circoncis. Il faut qu'ils soient des enfants physiques d'Abraham et il faut qu'ils soient circoncis. Et généralement, les deux vont ensemble parce que c'est une tradition qu'ils n'ont pas dont ils n'ont pas lâché prise. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire lorsque les hommes prônent la circoncision, comme le peuple juif le fait, la nation d'Israël le fait, en majeure partie, du moins dans le rabbinicat? Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela veut dire lorsque nous maintenons cela, ce rite de la circoncision en eux? Ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans votre chair. C'est cela qui est sous-jacent. C'est une glorification dans la chair. Ce n'est pas de la foi. L'apôtre, sous l'esprit d'inspiration, a dit que ceux qui voulaient maintenir leur rang privilégié d'enfant d'Abraham en pratiquant la circoncision, alors même que Christ nous a délivrés de la loi des ordonnances, comme nous l'avions lu un des sabbats précédents dans Colossiens chapitre 2 verset 14, il a attaché et cloué à la croix l'obligation des ordonnances, ou la loi des ordonnances, à savoir, dont la circoncision faisait partie. C'est ce que Jésus, nous l'avions vu, je vous réfère à cette méditation qui s'intitule « La loi de Dieu au cœur de la grande controverse », nous avions vu que ce qui a été cloué et attaché à la croix, ce n'était pas la loi morale des 10 commandements, mais bel et bien la loi des ordonnances, le rouleau du livre de toutes les lois prescrites aux enfants d'Israël par l'entremise de Moïse et qui avait été mise, cette loi, aux côtés de l'Arche de l'Alliance, à la différence de deux tables de la loi morale qui ont été mises dans l'Alliance et qui ne peuvent pas être retirées de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Mais cette loi était prête à passer et a été pour un temps et était constituée de types, de symboles et de figures qui orientaient vers Christ. Car nous avons lu que l'apôtre Paul, sur l'esprit d'inspiration, la parole de Dieu nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est pour cela que quand il a été immolé comme cela, quand il a été crucifié, alors tout le système des cérémonies rituelles a été aboli, parce qu'il avait trouvé son accomplissement en Christ. Mais la loi morale a continué parce que la loi ne peut être abolie, parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu détruire la loi et les prophètes, je suis venu accomplir la loi. » Il a dit aussi « J'ai gardé les commandements de mon Père, et si quelqu'un m'aime, il gardera aussi mes commandements. » Et donc, je reviens à ce que je disais. L'apôtre disait que ceux qui voulaient maintenir leur rang privilégié d'enfant d'Abraham selon la chair en pratiquant la circoncision, dont Christ nous a délivrés par la croix, parce que cela en faisait partie de la loi des ordonnances, ces gens-là cherchent à se glorifier dans la chair. Ceux qui veulent préserver ce que Dieu a aboli, ils veulent se glorifier dans la chair. Ces gens-là, ils ne sont pas de la foi d'Abraham. Et que disait, en contraste avec cette mentalité-là, de vouloir se glorifier dans la chair, de vouloir maintenir une distinction charnelle, de vouloir garder le signe tout en abandonnant ce que le signe était censé signifier. Parce que vous le lisez dans Romains chapitre 4, que Abraham a reçu le signe de la circoncision étant lui-même déjà alors incirconcis. Et donc, la circoncision n'était pas le fondement de la promesse, mais c'était la foi pour laquelle la circoncision lui a été donnée en signe, qui était le fondement de la promesse. Et c'était à cette foi et aux enfants de cette foi qu'était aussi délivrée la promesse à sa postérité qui est Christ, comme nous avons lu précédemment. Et donc, que disait l'apôtre Paul? Vous le lisez dans Galates chapitre 6, verset 14. Il y a ces hommes qui veulent se glorifier dans la chair, qui veulent vous contraindre à vous circoncire, Et aujourd'hui, nous avons des personnes qui veulent encourager ce peuple juif à se circoncire parce qu'ils croient que Dieu les a privilégiés et les privilégiera encore. Et en temps de les privilégier, même s'ils n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, ces personnes-là, les uns ou les autres, veulent se glorifier dans la chair. Donc, frères et sœurs, j'attire votre attention vers un fait qui est important, c'est que si cela vient à vous aujourd'hui, et vous considérez ces choses comme moi je le fais, vous allez être inévitablement mené à la question de savoir est-ce que je me glorifie dans la chair? Et pourquoi suis-je si attaché à cette idée que je n'ai pas réalisé que je me glorifiais dans la chair? Eh bien, c'est simple, frères et sœurs. C'est parce que, je le lis dans Galates chapitre 5, verset 17, c'est parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et vous ne réalisez pas ce que vous faites. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons dissiper les ténèbres de la confusion qui ont été jetées sur la pure et simple parole de Dieu pour que nous soyons rendus capables, par la grâce de Dieu, de discerner la vérité et d'obéir à la vérité. Parce que comme Jésus a dit, c'est par cette vérité que nous serons sanctifiés. Mais si nous sommes si nous absorbons une erreur, quelle qu'elle soit, même si elle est infime, cette erreur nous empoisonnera et nous empêchera de parvenir à la sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que disait l'apôtre Paul en réponse à cette mentalité? Il disait au verset 14 de Galates chapitre 6, « Quant à moi, lui qui fut lui-même pharisien des pharisiens, un hébreu des hébreux, lui, disait-il, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Et pour tous ceux qui suivront cette règle, que la paix et la miséricorde soit sur eux et sur l'Israël de Dieu. » Écoutez, frères et sœurs, que disait l'apôtre Paul? Qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en quelque autre chose, qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait, je ne me glorifie pas dans la circoncision, je ne vous glorifie pas dans la circoncision, je me glorifie en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde, est crucifié pour moi, et moi, pour le monde. Il disait, le monde n'a plus d'attrait pour moi, et je n'ai plus d'attrait pour le monde. S'il venait aux Juifs, les Juifs, ils n'avaient plus d'attrait pour les Juifs. Et les Juifs, en tant que peuple qui avait une idée de leur statut exalté, cela non plus ne l'attirait pas. Il était pour le monde crucifié. Le monde n'avait plus d'attrait non plus pour lui. Ce qui est important, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Et donc, la question qui se pose et que j'aimerais vous poser, c'est qui est l'Israël de Dieu? Seulement selon ces paroles du Seigneur à travers le serviteur Paul. Qui est l'Israël de Dieu? Tous ceux qui suivront cette règle. Verset 16. Et pour tous ceux qui suivront cette règle. Quelle règle? Verset 15. En Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Voilà l'Israël de Dieu. Je le relis, écoutez-le. et pour tous ceux qui suivront cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Sur qui ? Ceux qui gardent cette, qui suivront cette règle, que la paix et la miséricorde soient sur eux, sur ceux qui gardent cette règle, qui suivent cette règle, à savoir que seule la nouvelle naissance importe. La circoncision ne sert de rien. De rien. Il est écrit que la circoncision ne sert de rien. Comment pouvez-vous lire que la circoncision est importante? C'est contredire les paroles du Seigneur. Et j'attire maintenant votre attention vers Galates chapitre 3, verset 27 à 29. Car vous êtes tous, pardon, verset 26 à 29 plutôt. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Si vous êtes quoi ? Si vous êtes de Christ, si vous avez été baptisé en Christ, si vous êtes enfant de Dieu, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Lisons, pour conclure notre méditation aujourd'hui, les paroles du Seigneur dans Jean chapitre 8, dans ce fameux dialogue animé entre Jésus et ceux qui se réclamaient d'être enfants d'Abraham. Donc vous le lisez, vous le connaissez, vous avez déjà lu, vous êtes familier avec ces paroles, mais nous voulons les contempler aujourd'hui sous une nouvelle lumière par la grâce de Dieu. Jean chapitre 8, verset 31, je lis. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment donc, dis-tu, vous serez affranchis ? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. » Écoutez, frères et sœurs, c'est très important. Tout particulièrement que nous ne lisions pas dans les paroles de Jésus un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Parce que, rappelez-vous, que vous n'avez que les paroles ici. Vous n'avez pas le ton de la voix, vous n'avez pas la rapidité à laquelle ces choses ont été exprimées. Et donc, il faut connaître le caractère de Dieu pour apprendre à discerner ces éléments qui ne sont pas donnés. Je reprends, verset 37. Non, plutôt verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes point issus de la fornication, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu. Ces personnes-là, frères et sœurs, étaient bien physiquement des descendants d'Abraham. C'est indéniable. Et Jésus ne le niait pas non plus. Parce qu'il disait au verset 37, il disait, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Je le sais. C'est indéniable. Vous êtes véritablement les descendants d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Donc Jésus mettait ici en avant un contraste par lequel il cherchait à leur faire comprendre et à nous faire comprendre que leur appartenance à la lignée, à la descendance d'Abraham n'était pas déterminant dans leur relation à Dieu. Ces personnes étaient physiquement bien des descendants d'Abraham, mais Jésus leur disait que s'ils étaient vraiment la postérité d'Abraham, ils feraient les œuvres d'Abraham. Comme c'est écrit au verset 39. Et ensuite, au sujet de ces versets 44 à 47, j'attire votre attention vers ceci. Être enfant d'Abraham, être Israël, qui était le petit-fils d'Abraham. Parce que si vous êtes enfant d'Abraham, vous êtes Israël. C'est la suite logique des choses. Être enfant d'Abraham, être Israël, l'Israël de Dieu, que nous avions lu dans Galates chapitre 6. Bibliquement parlant, les bien-aimés, ce n'est pas déterminé par notre ascendance, par nos origines, mais par notre caractère, par notre foi et par notre relation à la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit au verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, c'est pourquoi vous ne les écoutez pas parce que vous n'êtes point de Dieu. Et j'aimerais... Est-ce que vous voyez ici, il y a un contraste qui est présenté ici par le Seigneur pour lequel il faut bien regarder profondément dans la parole pour pouvoir le discerner. Jésus déclarait que ces personnes étaient enfants du diable. Vous avez vu? Il disait au verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. C'était verset 44, le Père dont vous êtes issu, c'est le diable. Donc Jésus déclarait que ces personnes étaient enfants du diable, même s'ils étaient bien physiquement la postérité d'Abraham, Jésus déclarait qu'ils étaient enfants du diable, mettant ainsi en avant le contraste par lequel il est évident que les vrais enfants d'Abraham, le vrai Israël, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont de Dieu et qui écoutent les paroles de Dieu. Comme c'est écrit dans Galates chapitre 3, verset 26. Et vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur, frères et sœurs, puisse le Seigneur accompagner ces paroles, c'est ma prière, pour qu'elles fassent sens et qu'elles aient du poids dans notre expérience, pour que nous puissions garder à cœur que Dieu, Jésus, à travers son sacrifice, a aboli le mur de séparation qui faisait une distinction entre gentil et juif. Et que comme c'est écrit dans Colossiens, dans Éphésiens chapitre 2, pardon, verset 18, « Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu. » Et comme nous l'avons lu dans Galates chapitre 3, je le relis, verset 26, « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. » La promesse de ce monde, la promesse de la justice par la foi. La promesse de faire partie de la postérité à laquelle est réservé le salut en Christ.